de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander, à quelques mois de la grande conférence sur le climat, la COP21 à Paris, pourquoi est-il si difficile de s'entendre et d'agir ? Puisqu'on sait qu'il faut prendre des mesures pour empêcher le dérèglement climatique, pourquoi ne le fait-on pas ? Pourquoi tant d'inertie sur un dossier aussi crucial pour l'avenir de nos sociétés et de notre environnement ? Comment faire le tri dans la cacophonie des discours contradictoires où se mêlent arguments économiques et sociaux, résultats scientifiques et convictions idéologiques ? Comment prendre du recul pour participer à ce débat décisif en toute connaissance de cause? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, le journaliste scientifique Sylvestre Huette, qui a choisi de mettre les pieds dans le plat pour éviter l'indigestion des yaks à faucons et sortir des simplifications abusives autour de la question « Pourquoi la cacophonie climatique ?» Bienvenue. Bonjour Sylvestre Huette.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste scientifique au quotidien Libération, où vous suivez entre autres le dossier climatique, des centaines d'articles publiés à ce jour et plusieurs ouvrages. Quel climat pour demain ? Point d'interrogation. L'imposteur c'est lui, dans lequel vous répondiez point par point aux dénégations de Claude Allègre, ainsi qu'un ouvrage rédigé avec des climatologues et un économiste, les changements climatiques, les savoirs et les possibles. Et vous venez de publier aux éditions La Ville Brûle, un nouveau livre, concis et très instructif, Les Dessous de la cacophonie climatique. Alors, c'est pas un ouvrage de plus, c'est un livre qui veut poser les questions qui fâchent, Sylvestre.
Oui, parce que, évidemment, ce livre, je pense, fera grincer quelques dents dans les milieux industriels, politiques, y compris écologistes, et dans le milieu journalistique aussi. Parce que je pense que le défi climatique que l'humanité se pose à elle-même ne sera pas relevé sans un débat public très exigeant, où les points durs, ceux qui fâchent, ceux qui en réalité expliquent cette lenteur à agir alors que l'on saurait ce qu'il faudrait faire, sont mis sur la table et pas sous le tapis. Et ces points durs, évidemment, mettent en jeu des oppositions d'intérêts matériels, financiers, économiques, politiques.
Des contradictions
mais aussi.
Mais aussi
des visions du monde, de la société, des sociétés dans lesquelles nous voulons vivre. Et en évacuant ces débats, en faisant comme s'il n'y avait qu'un petit problème technique à régler, en réalité, on se met pas en situation de solutionner le problème.
Pour nous aider donc à faire le tri dans tout ce bruit qui pollue ce débat décisif autour de la question pourquoi la cacophonie climatique, on commence par s'en mettre plein les oreilles avec le mix de Guillaume Ploquin.
Je suis parti en Antarctique. J'ai découvert au fond des glaces l'impact des activités de l'homme sur le climat.
Je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit du grand public entre ce qu'on observe quotidiennement, il fait chaud, il fait froid, et ce que sont les preuves scientifiques.
Une des visions qu'on a d'un futur dans un climat très chaud, c'est effectivement plus d'événements extrêmes, donc plus de sécheresse, plus de canicules.
Oui, et puis je peux vous dire, il fait encore très très chaud à Strasbourg. 36 degrés, c'est 11 degrés de plus que les températures moyennes de saison.
Quand on met massivement du CO2 dans l'atmosphère, forcément, on réchauffe.
Tous les signaux, tous les indices explosent. Bon, ça explose en 100 ans. On sait bien qu'il y a eu des alternatives au climat, mais en général, ce sont sur des échelles de temps bien plus longues.
Comment convaincre les industriels et les politiques que c'est une priorité?
Sans surprise, les négociations ont été tendues, mais les dirigeants européens ont fini par trancher. Le paquet énergie-climat sera appliqué d'ici 2030.
Un accord plus ambitieux, est-ce que c'est possible aujourd'hui? On a l'impression de complètement piétiner depuis des années, qu'il y a conférence sur conférence, et que finalement, il n'y a jamais de résolution assez forte.
Je suis venu ici aujourd'hui en tant que leader de la plus grande économie du monde et deuxième plus grand émetteur pour dire que nous, les États-Unis, reconnaissons que c'est notre responsabilité en tant que créateur de ce problème d'aider à le résoudre.
Alors la fin des ressources, la phrase c'est si on continue comme ça, mais le problème c'est qu'on continue comme ça.
Il y a une nouvelle trajectoire de développement à ouvrir et ça c'est un appel absolument fantastique à l'innovation, à l'optimisme et je pense qu'on n'y est pas encore.
Sylvestre Fouillette, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'il faut d'abord retenir les quelques propos de scientifiques, je les connais.
Claude Lorius, Hervé Le Trot, Jean Jouzel du GIEC.
Parce que ce dossier, aujourd'hui, il est clairement politique. Il relève de la décision citoyenne ou gouvernementale. Mais il a une origine qui est purement scientifique.
Et ça a commencé quand?
Qui est clairement
quand est-ce que...
établi. Oh, c'est très vieux, en fait. Joseph Fourier découvre l'effet de serre au milieu du 19e siècle, et même à la fin du 19e siècle, en 1896, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'un savant suédois se dit d'une manière très simple, « Oh là, on commence à brûler beaucoup de charbon. Ce charbon, c'était du carbone fossile enterré. On le fait brûler, donc il va dans l'atmosphère sous forme de CO2. » Le CO2 est un gaz à effet de serre, donc ça va chauffer la Terre. À l'époque, il trouve ça très bien. Il faut dire qu'un Suédois, bon...
Ça l'arrangeait, voilà, que la Terre se réchauffe un peu.
Donc en fait, la physique de base, elle est très ancienne et elle est
le constat est très ancien.
Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, jusque à la fin des années 70, ce sujet est resté sur les étagères, dans les laboratoires, parce que on ne voyait pas de changements climatiques observables de manière claire et attribuable à l'augmentation de l'effet de serre de la Terre. Et puis parce qu'on n'avait pas d'éléments quantitatifs sur les relations entre l'effet de serre et les changements climatiques passés. Et puis enfin parce qu'on ne savait pas trop bien comment anticiper le futur. Et puis tout ça a changé dans les années 80.
Avec quoi? Avec d'abord les gaz de l'Antarctique
D'abord l'observation du fait que la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère, essentiellement de CO2, augmentait, et ça, on le mesurait depuis 1958. Et donc, ça, c'était clairement établi dès le milieu des années 70. Ensuite, il y a eu un travail pour essayer d'anticiper ce que ça pourrait faire dans l'avenir. Et donc, dès 1979, des calculs de spectroscopie disaient, si on augmente, si on double par exemple la teneur en CO2, alors on va chauffer de 1, 2, 3, 4 degrés, il y avait de l'incertitude dans les calculs, la température moyenne de la Terre. Mais c'est resté encore pas d'effet, on va dire, majeur à l'époque. Et puis tout a changé dans les années 80, d'abord parce que les équipes françaises de Claude Lorius et de Jean Jouzel ont découvert la relation passée entre les gaz à effet de serre et le climat dans les glaces de l'Antarctique.
Ils pouvaient mesurer par des carottes de glace et remonter le temps.
Voilà,
et...
en 1987, dans Nature, un grand journal scientifique mondial, ils apprennent à tous leurs collègues du monde entier que sur les 150 000 dernières années, température et gaz à effet de serre vont de pair, ce qui est logique puisque les gaz à effet de serre, plus il y en a, plus ça chauffe, comme le disait Gilles Rammstein. Alors du coup, que se passe-t-il? D'abord, les scientifiques travaillent plus sur l'anticipation du futur à l'aide d'outils qui n'étaient pas disponibles auparavant, des supercalculateurs et des modèles de climatologie inspirés de ceux qu'on utilise pour faire la météorologie. Et ils retrouvent l'ordre de grandeur des valeurs antérieurement calculées. Oui, si on double le CO2 dans l'atmosphère, on va avoir 2, 3, 4, 5 degrés de plus en moyenne planétaire, ce qui est énorme, puisque c'est l'écart qui sépare une ère glaciaire d'une ère chaude. Et puis, du coup, l'alerte monte au niveau politique, et c'est seulement là que le G7, et sous l'impulsion de Reagan et de Thatcher, crée le GIEC.
Donc le groupe d'experts sur le climat.
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le drôle de l'affaire, c'est que Thatcher et Reagan, qui sont des fervents tenants du système capitaliste et qui n'ont pas très envie de mettre en cause l'industrie, créent le GIEC parce qu'ils ont peur que le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, prennent la main sur l'expertise climatique. Et ils se disent, oh là là, c'est plein d'écolos.
La maîtrise, au fond,
voilà,
qu'ils ont créé le GIEC.
Pour garder la maîtrise de ça, ils ont créé un groupe intergouvernemental où les décisions majeures d'élection du bureau, par exemple, sont prises par le vote des délégations envoyées par les gouvernements.
Sauf que ce groupe, il est composé de scientifiques.
Ils se sont fait avoir parce qu'ils ont bien été obligés de nommer des bons scientifiques, reconnus par leur père, ceux qui faisaient de la climatologie, pour faire le boulot. le boulot consistant à expertiser les connaissances scientifiques publiées dans le monde entier sur le climat actuel, présent, futur, sur les risques du changement climatique et sur les moyens de l'atténuer. Du coup, évidemment, comme je le dis souvent, le lapin scientifique a mangé la carpe gouvernementale dans le GIEC et les rapports du GIEC ont scandé la montée en puissance du dossier climat dans le monde actuel.
Autour de la question pourquoi la cacophonie climatique, la température monte, tout de suite avec le groupe UHT sur RFI Planète Bleue. Ultra haute température sur RFI. Autour de la question pourquoi la cacophonie climatique, en compagnie de Sylvestre Huette de Libération, auteur des dessous de la cacophonie climatique, pour nous poser toutes les questions, même celles qui fâchent. On écoute celle que soulève l'astronome Olivier Lasvergnas, qui préside la Société Française d'Astronomie.
Comment, c'est une vraie question naïve, comment on peut responsabiliser des politiciens au-delà de la durée de leur mandat? C'est ça la question. Ou de leur deuxième mandat s'ils ont prévu d'en faire un autre. Mais c'est ça, si on n'a pas résolu ce problème-là, on résoudra rien. Malheureusement, les politiciens sont beaucoup trop directement liés à l'image de leur réélection. Et évidemment, le bien commun n'est pas suffisamment crédible en soi, motivant en soi, pour motiver les politiciens. Moi, c'est ça, j'ai l'impression, peut-être en prenant de l'âge, j'ai l'impression qu'il y a le politicien qui parle et qui souvent parle dans une espèce de langue de bois. Et puis d'un autre côté, il y a le politicien cynique dont on sait très bien que finalement sa question, c'est sa réélection. Et comment les politiciens pourraient reprendre, redonner une plus grande importance au bien commun? Comment on arrive à faire un temps propre qui est suffisamment long pour s'occuper du bien commun de la planète?
C'est une des clés de l'inertie et de l'impasse de ces grandes conférences climatiques, le temps court des politiciens, le temps long du climat, Sylvestre Huette.
La question d'avoir des systèmes politiques démocratiques qui soient capables de gérer le temps long et l'intérêt des générations futures et de promouvoir des hommes politiques non seulement compétents, honnêtes, mais aussi capables de voir plus loin que le mandat qu'ils vont exercer, ce n'est pas une question mince, et pas seulement pour les questions du climat, bien évidemment. Mais je crains que le problème soit plus grave que ça encore. Déjà, c'est assez difficile d'avoir un système politique qui évite ces écueils, mais c'est plus grave que ça, et pour l'expliquer, je vais prendre un exemple simple. Si vous comparez le Sénégalais moyen et l'Allemand moyen, et que vous le regardez avec l'idée que, un peu bisounours au pays du climat, moins on émet de gaz à effet de serre, et mieux c'est. Alors le Sénégalais est l'homme vertueux, puisqu'il n'émet que 0,4 tonnes de CO2 par année. Alors que l'Allemand, vraiment, quel pollueur, puisqu'il émet plus de 9 tonnes de CO2 par an. Mais franchement, comment aimeriez-vous vivre? Oui, le Sénégalais, il l'aimait peu. Et puis,
il aimerait peut-être émettre plus, justement.
Dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller chez le médecin quand ils sont malades, qui ne peuvent pas se transporter pour trouver du travail, qui vivent dans des conditions qu'on considérerait à raison à Berlin comme indécentes. Alors que l'Allemand moyen, lui, somme toute, il vit dans un confort qu'apprécierait la plupart des habitants de cette planète. Qu'est-ce que signifie cette comparaison ? Tout simplement que l'origine du problème climatique réside dans l'énorme explosion de consommation d'énergie qui a correspondu avec la croissance économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et que aujourd'hui, ceux qui vivent bien sont ceux qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Oui, mais tout le monde veut vivre bien. Et d'ailleurs, un politicien qui aurait une vision de l'avenir formidable à long terme, comme réclame mon collègue, et qui proposerait à ses électeurs de voter pour un programme qui se résumait à « vivons beaucoup moins bien » pour ne pas trop bousculer le climat, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne pourra pas l'appliquer son programme parce qu'il ne sera pas élu.
Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous dites aussi qu'au fond, l'urgence, c'est le titre d'un de vos chapitres, hein, l'urgence climatique n'existe pas. Et c'est un problème majeur.
Oui, alors l'urgence n'existe pas. Oui, de fait,
il y a des choses plus urgentes.
Lorsque il faut choisir entre régler tout de suite un problème économique et social en utilisant de l'énergie, et cette énergie est à 80% de l'énergie fossile, on le fait. Et puis on se dit qu'on verra plus tard pour l'effet climatique que ça provoque. Et puis il y a d'autres urgences que les gouvernements mettent en œuvre, des guerres, des conflits géopolitiques,
et qui passent avant le climat, qui lui est plus sur le long terme.
Pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que si les dégâts du climat que nous sommes en train de changer sont pour l'essentiel à venir au cours de la seconde moitié du siècle. En revanche, il n'est pas possible de se dire, eh bien, on agira à ce moment-là. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le système climatique a une inertie très lourde qui fait que les mesures qu'on prendrait aujourd'hui pour émettre moins de gaz à effet de serre
ne prendront effet que dans une dizaine d'années.
Parce que quand on met dans l'atmosphère une molécule de gaz carbonique, je parle statistiquement, évidemment, elle va agir pendant un siècle ou deux. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une autre inertie qui est technique et qui est relative à nos systèmes de production, de consommation, de transport. C'est que les infrastructures qui font qu'on utilise beaucoup d'énergie fossile sont construites pour des durées qui se comptent en décennies. Et donc, si aujourd'hui on prend des décisions de construction d'infrastructures fondées sur l'usage des énergies fossiles, elles vont avoir un effet pendant 30, 40, 50 ans. Et donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions majeures en termes d'infrastructures, en termes d'urbanisme, en termes de moyens de transport, en termes de sources d'énergie pour l'électricité, qui permettront demain de moins émettre de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui.
Mais en même temps, c'est aujourd'hui qu'il faudrait prendre des décisions, et en même temps vous nous expliquez à quel point c'est compliqué, parce que tout notre système fonctionne en émettant du gaz à effet de serre. Notre énergie fonctionne comme ça, les pays qui sont en développement ou émergents, eux aussi consomment de l'énergie et les mettent ensuite dans l'atmosphère. Enfin, tout notre système fonctionne comme ça, donc c'est tout ça qu'il faut remettre en question en regardant les vrais problèmes qui se posent.
Quand vous parlez du système à remettre en question, oui, ça permet de prendre conscience que la lutte anti-gaspi, comme on disait il y a 30 ans, ne peut pas suffire. En gros, oui, dans les pays les plus riches, dans le quart de l'humanité, là où on a abondance d'énergie, effectivement, on peut mener une lutte anti-gaspillage pour diminuer les émissions.
Mais ça ne suffira pas.
Mais ça ne suffira pas pour deux raisons. Première raison, dans ces pays-là, ce qu'il faut, c'est pas diminuer un peu, c'est diviser par 4 les émissions d'ici 2050.
Autour de la question pourquoi la cacophonie climatique et comment en sortir en n'évitant pas toutes les contradictions et tous les sujets qui fâchent, notamment dans les pays émergents et en développement, suite dans 3 minutes juste après le flash d'info pour faire le tri justement entre toutes ces contradictions que nous vivons. À tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie sur les dessous de la cacophonie climatique. C'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Sylvestre Huette, journaliste scientifique au quotidien Libération, avec qui nous tentons de faire le tri entre tous les discours contradictoires sur le dossier climatique pour sortir de la confusion, de l'inertie et de l'impasse à quelques mois de la grande conférence sur le climat qui réunira à Paris tous les grands dirigeants politiques et économiques de la planète, mais aussi les représentants des ONG. Ibrahim Togola est membre du réseau Climat Mali. Il fait partie de la délégation des négociateurs maliens à la prochaine COP21.
Les pays du Silpa, des questions de réparation, des questions d'adaptation, des créations du fonds climat, il y a tous ces différents aspects. Mais je dirais aujourd'hui, tous ces aspects, c'est les conséquences. Il faut s'attaquer à la cause. La cause est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à produire comme on a toujours produit. Nous devons trouver des solutions courageuses pour réduire considérablement les émissions.
Trouver des solutions courageuses, au nord comme au sud, pour réduire considérablement les émissions, c'est un vœu pieux de ce négociateur malien. Ces propos ont été recueillis à Bamako par notre correspondant David Bachet.
En tout cas, c'est une nécessité absolue d'être courageux. Parce que depuis l'émergence du dossier et la signature de convention climat de l'ONU en 1992, comme je l'ai écrit dans ce livre, il y a un spectre qui hante le dossier, c'est le spectre de la justice.
La justice climatique.
Oui, parce que les hommes ne sont pas tous également responsables de ce problème et ils ne sont pas tous égaux devant les risques qu'ils représentent. Tout d'abord, il y a une responsabilité historique des pays aujourd'hui industrialisés. Pour chiffrer le problème, un habitant des États-Unis entre 1900 et 1992 a émis en moyenne 1000 tonnes de CO2 et un Indien 24 tonnes. Donc, ils n'ont pas la même responsabilité.
Absolument.
Et les pays pauvres sont en situation d'exiger un paiement de cette dette, notamment parce
la dette climatique.
Oui,
hein.
Notamment parce qu'ils seront les premières victimes des effets du changement climatique, parce que pour parer à ces effets, on va utiliser de la technologie, des moyens économiques et financiers qu'ils n'ont pas.
Et puis parce qu'aussi, ils sont situés souvent dans des pays déjà chauds, donc ils vont eux aussi,
dans des régions,
subir en premier le réchauffement climatique.
Des effets les plus dévastateurs du changement climatique. Puis il y a une deuxième raison, et c'est là qu'on trouve le courage demandé par ce négociateur malien. Mon opinion, c'est qu'il n'est pas possible de conduire une politique climatique efficace si elle ne recherche pas la justice future et pas seulement de réparer l'injustice passée.
Et comment rechercher la justice future ?
Cela veut dire que chaque être humain a le même droit à bousculer le climat ou, pour le dire autrement, le
à
même
se
droit
développer à jouir en bousculant le climat.
D'un climat pas trop abîmé. Eh bien, ça veut dire qu'il faut aller vers une convergence des émissions entre tous les êtres humains et entre tous les pays. Cela, c'est
une vraie justice, hein.
Oui, une vraie justice. Mais pour obtenir cela, il faut avoir une trajectoire de réduction des émissions drastique dans les pays industrialisés, je disais, divisé par 4.
Donc bien plus drastique
2050.
Dans les pays industrialisés.
Ah oui, alors que des pays comme le Mali doivent pouvoir augmenter leurs émissions parce que je ne vois pas comment on sortira les Maliens, pour nombre d'entre eux, de l'état de misère où ils sont, s'ils ne peuvent pas utiliser plus d'énergie fossile dans les décennies qui viennent.
On voit bien que c'est extrêmement complexe et qu'on est bien loin aussi de certains discours parfois angéliques, parfois bisounours un peu. C'est simple, il n'y a qu'un faucon. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué que ça au niveau des technologies qu'il faut utiliser, parce que certaines ne sont pas agréables à utiliser alors qu'elles peuvent être puissamment utile dans la lutte contre le changement climatique.
Vous pensez à quoi, au nucléaire?
Il y a le nucléaire, mais aussi la capture stockage du CO2 sorti de centrales électriques. Et puis, dans un autre registre, et c'est là aussi qu'il faut du courage politique et de la lucidité, comment peut-on imaginer que l'ensemble de l'humanité accepte une politique de sobriété énergétique généralisée, alors qu'une partie d'entre elles, petite certes, n'aurait aucune limite à sa consommation d'énergie. Autrement dit, on a aujourd'hui des riches et des pauvres dans tous les pays, on a des pays riches et des pays pauvres, mais ce qui est clair, c'est que tous les pauvres voudrait avoir les modes de vie des riches. Et nous vivons dans un monde où les responsables politiques, je pense par exemple à Emmanuel Macron, qui disait il n'y a pas assez de jeunes qui veulent être des milliardaires en France, non. Dans un monde où on lutterait sérieusement contre le risque représenté par le changement climatique, il ne peut pas y avoir de milliardaires ni de millionnaires. Parce que sinon, le fardeau ne serait pas équitablement réparti.
Ça va être compliqué à faire surtout, passer. Ça, on comprend bien, du coup, la difficulté du consensus. Hein,
mais
entre pays riches et pays pauvres, dans ces grandes conférences.
Un écologiste conséquent est un écologiste qui réclame une politique d'éradication des hauts revenus et des hauts patrimoines, parce que sinon, il y aura toujours la volonté de ceux qui seront plus pauvres, d'aller vers ce mode de consommation.
C'est-à-dire que ce que vous dites aussi, Sylvestre Huet, c'est pourquoi on est dans une telle impasse, c'est parce qu'au fond, il faudrait mettre le développement avant la question climatique.
C'est un peu le paradoxe. Certains pensent que pour pouvoir se développer, il faut une bonne politique climatique. Moi, je dirais que la vérité est plutôt inverse. C'est que si la politique climatique est ressentie par ces trois quarts de l'humanité qui ont des difficultés importantes à vivre, comme une interdiction de voir leurs problèmes concrets de logement, d'emploi, d'accès à la santé, à l'eau potable, à tous ces droits refusés, au nom de « il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles parce que ça bouscule le climat », alors ils n'en voudront pas. Tout simplement.
Et c'est là que se pose la vraie question. Hein. C'est vraiment là que ça se joue, non pas sur la réalité du changement climatique, mais sur comment on peut faire.
Alors, je dirais, pour agir, évidemment, il y a l'action pour trouver, mettre en œuvre des technologies, comme on dit, propres, c'est-à-dire qui permettent d'avoir de l'énergie sans émettre des gaz à effet de serre. Et il y a aussi une action sur les besoins. Parce que je disais, il faut supprimer les riches, mais d'une certaine manière, il faut supprimer les pauvres aussi. Mais pas en les faisant devenir riches, mais en ayant des réflexions un peu sévères vis-à-vis de la manière dont on vit depuis 50 ans, sur les effets de ce matraquage publicitaire permanent inventé après la Seconde Guerre mondiale pour booster l'économie américaine, sur la manière dont les gens veulent vivre. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on voit que on peut réellement diminuer les émissions de gaz à effet de serre sans diminuer, on va dire, le confort de vie, mais en éliminant beaucoup d'éléments matériels qui sont superflus.
Autour de la question, pourquoi la cacophonie climatique, on va peut-être ajouter encore un peu à la complexité. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. C'est donc du géant chinois que va dépendre aussi le succès, ou plutôt le non-échec, de la COP21. Et puis, ce sont aussi les Chinois, le peuple chinois, qui souffre le plus peut-être de la pollution et qui le font savoir à leur gouvernement, grâce notamment à des militants écologiques qui font pression comme ils le peuvent. C'est le cas de Ma Jun, il est fondateur de l'Institut des Affaires Publiques et Environnementales. Il se bat pour plus de transparence et pour mettre les entreprises et le gouvernement chinois devant leurs responsabilités. Il a notamment mis au point une application pour smartphone qui s'appelle Blue Map, carte bleue, qui permet à 600 millions d'internautes chinois de suivre en temps réel les émissions de CO2 sur leur portable. On écoute Ma Jun au micro de Heike Schmidt, notre correspondante à Pékin.
Pour 380 villes, le public peut vérifier heure par heure 6 composants polluants majeurs et voir l'évolution sur le mois. À travers une carte géographique, les internautes peuvent aussi suivre la qualité de l'air dans leur propre ville. Ils peuvent aussi les tweeter sur leurs réseaux sociaux et mettre ainsi les bureaux de la protection environnementale locaux devant leurs responsabilités. C'est un moyen de mettre les entreprises émettrices de CO2 sous pression, des entreprises qui jusqu'à présent, chaque année, payaient des amendes sans résoudre leurs problèmes. Maintenant, ils doivent rendre des comptes au public.
Donc le public joue un très grand rôle. Alors quelle importance a l'opinion publique pour faire avancer la politique environnementale ?
Pendant toutes ces années, la protection de l'environnement a été décidée de haut en bas. C'est-à-dire que le gouvernement central contrôlait un système régional totalement géré par l'État. Aujourd'hui, il y a une conscience accrue sur le fait que de tels défis d'une énorme ampleur ne peuvent pas être levés sans sans la participation active du public. Dans d'autres pays, les gens vont devant la justice pour faire valoir leurs droits. Mais en Chine, c'est encore difficile. Donc, nous avons besoin de la participation publique pour générer le pouvoir nécessaire pour exercer un véritable contrôle des émissions.
Est-ce que cette demande est prise en compte par le gouvernement ?
Oui, la preuve, la nouvelle loi sur l'environnement qui est entrée en vigueur cette année, cette loi dispose d'un chapitre spécifique, le chapitre 5, qui porte le titre « Transparence et participation publique ». Nous n'avons jamais eu une telle loi. Nous avons besoin d'une nouvelle procédure de prise de décision, une procédure qui implique plus d'acteurs, et non seulement les gouvernements locaux, des acteurs économiques et des experts. Elle doit aussi prendre en compte les publics concernés au niveau local. À travers une interaction et une négociation saine entre ces différentes parties, nous pourrons trouver peut-être un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. Donc, il est temps que les compagnies changent d'attitude afin de coopérer avec les communautés locales.
De transparence sur les émissions polluantes, tenter de trouver un équilibre entre croissance économique et protection de l'environnement. La Chine est en première ligne, à tous les niveaux.
Alors, un petit bémol.
Oui, c'est
en fait, lorsqu'on dit que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde, on ne dit rien d'autre que ceci. En Chine, il y a 1 milliard 300 millions d'habitants. Parce que si on prend les chiffres pertinents, et qui sont les chiffres par habitant, la Chine émet... Chaque Chinois émet par an un peu plus de 6 tonnes de gaz carbonique, de CO2, en raison de l'usage des énergies fossiles. C'est un tiers de moins que les Allemands. C'est presque 3 fois moins que les Américains. C'est un petit peu plus que la France, mais c'est essentiellement dû pour la France au fait qu'on a une électricité décarbonée à 95% avec de le nucléaire et l'hydraulique.
Donc tout dépend de quel chiffre on parle et comment on compte.
Il faut absolument compter par habitant, sinon ça n'est pas juste. Sinon on ne fait qu'on
en revient à la justice climatique.
Il y a des pays avec beaucoup d'habitants et des pays avec peu d'habitants. En Chine, il y a encore 250 millions de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Eux, leurs émissions devraient augmenter pour qu'ils vivent mieux.
Pour qu'il y ait une justice climatique.
D'autre part, il ne faut pas oublier que dans les émissions chinoises, qui est devenue l'usine du monde occidental, il y a toutes ces émissions liées aux objets qui sont fabriqués là-bas et que nous consommons.
Donc nous sommes responsables alors de ces émissions-là.
Bien sûr, et pas un petit peu. Si l'on réintégrait dans les émissions de l'Union européenne, celles qui sont dues aux objets qui sont importés depuis la Chine et consommés en Europe, alors les émissions de l'Union européenne ne sont pas, comme on dit, stables par rapport à 1990, comme l'a demandé le protocole de Kyoto. Elles sont en réalité en augmentation de 15%.
On comprend
pour la France aussi, d'ailleurs.
On comprend du coup la difficulté qu'il y a à s'entendre dans ces grandes conférences internationales entre tous ces pays qui ne donnent pas les mêmes chiffres.
Je peux vous révéler que... lors de la discussion du groupe 3 du GIEC qui parle des politiques à conduire, lorsqu'il a fallu rédiger le résumé pour décideurs qui est signé par les gouvernements, même s'il est pour l'essentiel écrit par les scientifiques, de nombreux gouvernements ont demandé et obtenu qu'on enlève de ce résumé un tableau qui est dans le rapport complet et où justement on présente les émissions par pays, en tenant compte de ses importations et exportations.
Et là, ça change tout.
Eh ben, ça change pas mal de choses, mais dis donc surtout que les pays en question se sont dit « Oh, si on met ça dans le résumé pour décideurs, ça va devenir un élément de négociation sur lequel on pourra plus revenir et il faut laisser la négociation plus ouverte. C'est là qu'on voit que, tout de même, chez certains diplomates, certains gouvernants, il y a une prise de conscience de ce que signifie la géopolitique du climat de demain. Quand il y aura, parce que je mets un indicatif futur là, une telle hausse du niveau marin, qu'on aura 100 millions de personnes dans le monde qui devront quitter l'endroit où ils habitent, parce que cet endroit va passer sous le niveau de la mer. Il y a des pays qui vont dire « c'est de votre faute ». En se tournant vers les pays riches. C'est à vous de gérer ce problème. Et si on ne fait rien, si on ne mène pas de politique climatique, si on augmente la température moyenne de la Terre de 5 degrés, 5 ou 6 degrés, et ce ne sont pas 100 millions de personnes qui sont dans cette situation, mais 350 à 400 millions de personnes qui devront quitter l'endroit où ils habitent. Est-ce que nous sommes capables de gérer en paix un tel défi quand on voit que l'Europe n'est même pas capable d'accueillir correctement quelques centaines de milliers de réfugiés?
Mais comment se fait-il que ces diplomates dont vous parlez, ces négociateurs, qui ont donc conscience de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, qui est une certitude, enfin on ne sait pas ce qui va se passer exactement, mais on sait qu'il y a un tas de questions soulevées par ce dérèglement climatique, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas plus, ou qu'on se voile la face, ou qu'on continue de ne pas donner les mêmes chiffres, ou qu'on évite de parler justice climatique?
Paradoxalement, c'est une preuve de sérieux. Les promesses des États en vue de la COP21, qui ont été déposées au secrétariat de la Convention climat de l'ONU, des promesses d'émissions d'ici 2030, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Quand on les additionne aujourd'hui et qu'on mesure l'effet climatique, on se rend compte qu'on est très loin de l'objectif climatique, pas dépassé de degrés de plus que la température pré-industrielle. D'un côté, c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que l'humanité n'est pas prête à affronter le défi qu'elle s'est elle-même posé. D'un autre côté, ça veut dire aussi que ces promesses sont un peu sérieuses.
Ah, et que là, on pourra peut-être les tenir, en fait.
En tout cas, que les gouvernements n'ont pas envoyé parce que c'est pas des engagements, ce n'est pas contraignant. Ils auraient pu envoyer n'importe quoi.
Des promesses intenables.
Envoyer des promesses intenables qui permettraient, soi-disant, de respecter l'objectif climatique, alors qu'en réalité, ils n'ont pas les moyens de les tenir. Donc, je dirais que la COP21, si au moins elle met en œuvre ce niveau d'engagement de la lutte contre le changement climatique, ok, on constatera qu'on n'est vraiment pas au bout du chemin, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais au moins on fera ce qu'on est aujourd'hui capable de faire. C'est-à-dire des politiques qui, malheureusement, ne se fixent pas, c'est mon point de vue, des objectifs plus radicaux en termes de justice à l'intérieur des pays, par exemple,
ou en termes d'usage. Mais les objectifs tenables, c'est ce que vous dites.
Soyons francs, je ne crois pas vraiment que ces objectifs sont aujourd'hui totalement certains dans leur tenue, mais au moins, ils vont vers le sérieux.
Vers le sérieux, en gravissant la montagne, pour écouter Jean Ferrat sur RFI, oui, chanson écrite pendant les 30 Glorieuses en France, et que vous avez choisi pour illustrer nos contradictions actuelles.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la tête.
Jean Ferrat, que la montagne est belle, sur RFI, chanson qui résonne d'actualité.
Oui, parce que Jean Ferrat évoque ces ruraux qui vont à la ville à cause du formica et du ciné. Les Trente Glorieuses, c'est à la fois cet exode rural, l'accès au confort moderne de dizaines de millions de Français, et l'origine du problème climatique avec les émissions de gaz à effet de serre.
Et on en est toujours là aujourd'hui.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est par exemple que, selon la division de la population des Nations Unies, dans les 25 à 30 ans qui viennent, en Asie, 600 millions de personnes vont passer de l'état de ruraux à urbains. C'est à peu près comme si on construisait une ville de 2 millions d'habitants tous les mois. Et ça, évidemment, aujourd'hui, on ne sait le faire qu'en émettant beaucoup de gaz à effet de serre. D'où comment la... y arriver sans ? C'est ça la question.
C'est ça la question. D'où toutes ces contradictions, toute cette confusion, toute cette cacophonie autour de la question du dossier climatique, le fou règne quand même entre ce qui est de l'ordre de la certitude, le constat des experts scientifiques, et ce qui est de l'ordre de l'incertitude, les modélisations climatiques, comment le système Terre va réagir à tout ça. Je vous propose, en dernier éclairage, d'écouter le paléoclimatologue Gilles Ranstein, spécialiste de l'évolution du climat sur Terre depuis 4 milliards d'années. Il était lundi notre invité.
Quand on met massivement du CO2 dans l'atmosphère, forcément, on réchauffe. Forcément. Les gens qui disent le contraire sont soit mal informés, soit veulent mal informer. C'est pas la même chose. Et après, ce qui est du domaine de l'incertitude, c'est comment ça va se décliner dans le temps. On ne sait pas, par exemple, répondre à la question, est-ce qu'à l'échelle de 100 ans, on peut avoir 1 mètre de niveau marin, ou est-ce qu'on peut en avoir 3? Alors, si vous regardez le GIEC, c'est 1 mètre, mais ils excluent des types de surprises qu'on connaît dans le passé. À chaque fois que la calotte Laurentide était instable, elle perdait de la masse comme ça. C'était pas une boule de glace qui fondait, si vous voulez. C'était vraiment quelque chose qui se faisait de façon très non linéaire. Et surtout, si ça se produisait, ça changerait le climat aussi, parce que quand vous mettez plein de glace dans l'eau, vous changez la circulation océanique, vous changez le climat, vous changez les moussons. Et si vous changez les moussons, vous changez la vie de millions de gens. Et donc, on ne sait pas, à l'échelle de 100 ans, comment les modifications de cryosphère, comment les modifications de moussons vont changer la dynamique des populations. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc, on travaille sous incertitude. On ne sait pas non plus s'il n'y aura pas une invention géniale qui permettra assez rapidement, parce que quand même, pour l'ozone et pour le CFC, ça a été assez rapide. C'est impossible pour le CO2, parce que tout est basé là-dessus. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une idée géniale qui fasse que ça aille beaucoup. Donc, il y a plein d'incertitudes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le passé, ça c'est sûr, on est sur le 4e temps de la valse, un temps fulgurant, un temps très très rapide, où on change les choses tellement vite que ça va poser des problèmes pour les hommes, surtout qu'on est 9 milliards, et que c'est plus comme quand on était 3 ou 4 peuplades sur la Terre. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent sur les côtes, la remontée du niveau marin c'est très important, il y a vraiment un déchangement de mousson, c'est aussi très important, donc on peut pas dire que ça on ne le sait pas, on le sait très bien que ça va se passer. Mais à mon avis, le principal problème, il vient du fait que l'homme il a pas changé depuis Christophe Colomb, et même avant, c'est-à-dire que les gens ils viennent, ils veulent l'or des autres, ils veulent la terre des autres, ils veulent tout prendre. Ils veulent d'abord dilapider et s'accaparer. Bon, ben ça, c'est plus possible. Si on fait ça, on va à la catastrophe. Donc, il faut arrêter. Et ça, c'est pas un truc qu'on décrète tout de suite. Moi, je pense qu'il faudra des années et des années pour que ça finira par marcher, je pense, mais que petit à petit, les gens se rendent compte, en particulier ceux qui sont très riches, que ça peut plus durer, que c'est pas possible, que c'est un modèle qui ne marche pas.
Sylvain Stuet, vous voulez réagir à cet éclairage, Gilles Ranstein?
J'ai la raison dans l'appréciation du dossier scientifique. On en sait assez, malgré les quelques menteurs professionnels.
Oui, c'est ça, les autres sont des menteurs professionnels. Ça, c'est vraiment une certitude sur le réchauffement climatique.
C'est une certitude que ça se réchauffe, c'est la faute de nos émissions, et surtout le risque du changement climatique futur est si grand qu'on ne peut pas parier sur un miracle technologique ou sur un miracle de la nature.
On peut espérer des solutions technologiques.
Le temps est à la discussion citoyenne, à la prise de décision politique, à la négociation entre pays.
Un changement aussi complet de paradigme. Gilles Ranstein disait, il faut que l'homme arrête d'être prédateur. Ça veut dire qu'on change tout. Peut-être pour ça que c'est si difficile de s'entendre sur le fait de tout changer.
Disons que par exemple, les réformes sociales et économiques qu'il faut mettre en œuvre pour construire des sociétés qui soient vraiment sobres en énergie fossile et aussi en énergie en général, en biens matériels, sont à réaliser à rebours de tous les dogmes économiques et politiques aujourd'hui en vigueur dans toutes les capitales du monde, dans toutes les directions de multinationales du monde et dans la plupart des partis politiques du monde et aussi dans la tête de milliards de citoyens. Je parlais tout à l'heure de notre ministre de l'économie qui malheureusement veut des milliardaires, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il a été nommé par un président qui lui-même a été élu par une majorité d'électeurs. Donc oui, les responsabilités sont différenciées, mais on ne peut pas se contenter de dénoncer les gens qui sont aux manettes, surtout que dans des sociétés à fonctionnement plus ou moins démocratique.
C'est nous qui les avons élus.
Ils ont été portés au pouvoir par le vote. Il y a effectivement du courage à réunir pour avoir des discussions qui déboucheront sur des décisions radicales.
Et que l'on fera vraiment toute connaissance de cause, grâce notamment à la lecture de votre livre, Sylvestre Huet, indispensable, qui vient de paraître aux éditions La Ville Brûle, les dessous de la cacophonie climatique, pour pouvoir participer vraiment à ce débat absolument décisif. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs. Quant à nous, Guillaume Ploquin, Caroline Fillette et Caroline Leschowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour continuer de nous interroger ensemble. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.